France Inter.fr.
France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Ce numéro spécial des carnets aujourd'hui est consacré à l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, l'UDES, qui s'apparente à un syndicat des patrons de l'ESS. Ça peut étonner de parler de patrons pour un secteur qui est d'abord composé d'associations et de coopératives, mais c'est comme ça. On aura des explications dans un instant. La récente création de l'Union sous cet intitulé d'UDES répond précisément au besoin de faire entendre le secteur alternatif comme acteur majeur de l'économie. Comme dans la forme classique de tout schéma économique, l'Union représente des entreprises, des chefs d'entreprise, des salariés compétents, évidemment, et des bénéfices. La seule et très grande nuance est que l'entrepreneur solidaire, vous commencez à le savoir si vous écoutez les carnets, tient compte de l'impact de son activité, des effets sur le territoire, de la qualité relationnelle et surtout du respect des droits sociaux qui placent l'économie au service de l'homme et non l'inverse. En amont de la longue période électorale que nous vivons, l'UDES a écrit 60 propositions qu'elle a portées à la connaissance de l'ensemble des candidats. Elle vient d'ailleurs de déposer une demande de la création d'un secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire à l'issue des élections législatives. L'avenir d'une économie que l'on dit citoyenne en dépend grandement. C'est pour cette raison que notre invité aujourd'hui est Sébastien Darigrand, délégué général de l'UDES et membre du labo de l'économie sociale et solidaire.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Sébastien Darigrand, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sébastien, délégué général de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. C'est un syndicat patronal multifonction.
Alors, c'est un syndicat d'employeurs, effectivement, qui regroupe les entreprises et les employeurs du secteur de l'économie sociale et solidaire, associations coopératives mutuelles. Mmh. Entreprise sociale qui regroupe aujourd'hui 23 membres hein, qui sont des membres sectoriels qui agissent dans les domaines des services à la personne, de la mutualité, des SCOP, 60 000 entreprises et puis qui couvrent à peu près un salarié sur deux de l'économie sociale et solidaire, soit plus d'un million de salariés.
Quel bénéfice a une association, une coopérative ou une mutuelle d'entrer dans l'UDES?
Eh bien, nous proposons des services à nos employeurs dans le domaine du droit social, du droit de la formation professionnelle, des services juridiques. Mmh. Donc, on leur offre des services, on leur permet de mieux se défendre face à la concurrence. Et l'UDES négocie des accords avec les organisations syndicales de salariés au niveau national multiprofessionnel. Pourquoi multiprofessionnel? Parce que ça regroupe effectivement 15 branches dans lesquelles nous négocions des compromis sociaux.
Sébastien, il n'y a pas antinomie à parler patronat dans l'économie sociale et solidaire, alors qu'on parle de gouvernance démocratique, d'utilité sociale, d'une personne, une voix, encore un patron, mais on est sur le système classique de l'économie conventionnelle.
Le terme de patron, nous avons eu des débats, nous, en interne, là-dessus.
J'imagine.
Nous sommes des acteurs qui s'inscrivent avec une forme de démocratie économique, puisque nous faisons contribuer l'ensemble des parties prenantes au projet. Le terme de patronat, nous l'assumons. Nous l'assumons parce que nous avons besoin de nous inscrire dans le paysage patronal. Vous êtes journaliste, vous savez ce que c'est que le paysage patronal. Et généralement, quand on parle du paysage patronal, on parle toujours des mêmes. Or, le paysage patronal, il est multiple. Et cette multiplicité et ces modes d'entreprendre qui sont aujourd'hui peu représentés effectivement dans ce paysage patronal, eh bien, ils ont droit d'exister. Et nous avons vocation à prendre toute notre place à côté du MEDEF et des autres organisations patronales pour à la fois dire en quoi nous sommes différents et puis parfois porter des positions communes. Ça nous est arrivé, notamment sur la défense des modèles des petites et moyennes entreprises. On peut être amené aussi à défendre des positions communes sur des questions de dialogue social.
La loi donc de l'ESS de l'été 2014 vous a donné du poids, vous a permis d'être entendu davantage pour ne pas passer pour une sorte, excusez-moi, du MEDEF des pauvres.
Nous avons toujours souhaité sortir d'une forme d'économie de la réparation. Nous sommes des acteurs d'utilité sociale, de lien social, de cohésion sociale. Nos entreprises, qui peuvent être des SCOP qui agissent effectivement dans le domaine de l'économie collaborative ou même de la transition énergétique, ou des mutuelles effectivement qui sont aujourd'hui sur des projets qui visent effectivement à améliorer le système de santé. Nous sommes donc sur des acteurs à la fois de l'économie, dans l'économie, mais aussi de la nouvelle économie. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup de transition énergétique, qu'on parle beaucoup économie circulaire, de nouveaux modèles économiques, eh bien, nous nous inscrivons totalement dans ces modèles. Nous en sommes un des fers de lance. Et d'ailleurs, nous entendons bien vis-à-vis du nouveau gouvernement qui s'est installé donc suite à l'élection d'Emmanuel Macron, faire valoir cette nouvelle économie et en être partie prenante, de façon à ce que nos propositions soient totalement intégrées et prises en compte dans les réformes qui vont s'ouvrir.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Sébastien Dary, grand délégué au général de l'UDES, invité des carnets de campagne, Sébastien et l'UDES, membre du labo de l'ESS, parce qu'on entretient régulièrement des rendez-vous thématiques avec nos confrères du think tank du labo. L'UDES qui a édité 60 propositions portées à la connaissance des candidats à la dernière élection présidentielle. Vous êtes aussi co-rédacteur d'un manifeste pour l'économie citoyenne aux éditions Les Petits Matins, je donne ça pour les références, et puis d'une convention avec Pôle emploi. Un mot sur cette convention, parce que enfin, ça y est, on va donc guider les demandeurs d'emploi vers des entrepreneurs sociaux et solidaires qui ont du travail à proposer.
Il y a plus de 700 000 personnes qui vont partir à la retraite d'ici 2025 dans nos secteurs d'activité. Tous ces postes ne seront pas remplacés, mais il y en aura un nombre conséquent qui seront remplacés. Je vous renvoie aux chiffres de France Stratégie qui annoncent 300-400 000 emplois dans l'économie de la santé, dans l'économie des services à la personne. Et donc nous avons aujourd'hui de forts besoins. C'est pour ça que nous avons souhaité renouveler ce partenariat avec Pôle emploi. Nous travaillons aussi avec l'APEC, par ailleurs, sur la question de l'emploi des cadres. Et avec Pôle emploi, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, nous avons contribué à construire ensemble un portail de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, www.emploi-ess.fr. Et puis, nous avons vocation aussi à donner de la visibilité à nos métiers, de permettre à des demandeurs d'emploi de découvrir nos modes d'entreprendre et de venir voir ce qui se passe dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et puis de mettre en place aussi ensuite derrière des parcours de formation pour nous permettre effectivement à ces demandeurs d'emploi d'être mieux ciblés vers nos secteurs.
J'ai noté quelques points importants, enfin ils sont tous importants, mais dans les 60 propositions, en particulier le cas des jeunes. Fin 2015, le recensement donnait que chez les 15-24 ans, il y avait 24% de chômeurs. Que peut-on faire? Alors, il y a apprentissage, formation, initiation. Ensuite, il y a les possibilités de faire une première expérience. On a donné quelques exemples sous forme de bénévolat ou de service civique. Est-ce suffisant?
D'abord, le service civique n'est pas un contrat de travail. C'est-à-dire que c'est une forme d'engagement qu'il faut reconnaître en tant que tel, mais qui est intéressante parce qu'on peut se servir de l'engagement que le jeune acquiert dans le cadre du service civique pour ensuite en faire des éléments de valorisation de ses compétences sur d'autres emplois. Ça, c'est un premier point. Ensuite, effectivement, il y a la question de la connaissance et de développement du lien entre l'école et l'entreprise. Par exemple, savez-vous que dans les programmes économiques et sociaux du lycée en première et en terminale, on n'enseigne absolument pas l'économie sociale et solidaire. Est-ce normal? Non. Le dernier point, c'est de regarder dans quelle mesure les pouvoirs publics peuvent aussi nous accompagner en développant un écosystème favorable au développement des activités de nos entreprises, en nous permettant de bénéficier des dispositifs de droit commun et en permettant aussi à ce que on sorte un peu de cette idée que l'économie sociale et solidaire doit embaucher, mais avant tout des jeunes en difficulté ou des personnes en difficulté. Nous avons contribué très fortement ces dernières années aux emplois d'avenir qui ont permis effectivement à chez nous 100 000 jeunes de trouver un emploi dans un secteur associatif. Mais l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas que ça. Ce ne sont pas que des jeunes peu ou pas qualifiés. Ce sont aussi des besoins de qualification très importants. On a besoin de cadres formés. Et pour former ces cadres et pour avoir effectivement une adéquation avec les besoins de nos employeurs, eh bien, il faut bien évidemment que les pouvoirs publics comprennent que nous devons aussi bénéficier des dispositifs de droit commun qui sont applicables à toutes les entreprises.
Dernière proposition, une que j'ai retenue aussi, c'est la création d'un label national pour les produits issus de l'économie circulaire.
Oui, nous pensons qu'il faut une fiscalité particulière pour les produits d'économie circulaire, parce que nous pensons qu'il faut donner, alors vous savez, les systèmes de bonus-malus, là, il faut un bonus, quoi. C'est-à-dire qu'il faut valoriser une économie de proximité qui localise ou qui relocalise des emplois, qui fait du développement durable et qui permet effectivement de travailler sur du circuit court. Vos auditeurs le savent, un certain nombre d'entre eux utilisent les AMAP ou font leurs courses dans des supermarchés bio ou dans des supermarchés coopératifs, que ce soit Super U, Intermarché, etc. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver d'une façon ou d'une autre une façon de valoriser ces produits de l'économie circulaire qui sont tout à fait profitables et que la commande publique aussi puisse prendre en compte aussi ces produits d'économie circulaire. On a parlé bien évidemment des écoles. Mmh. On peut aller beaucoup plus loin et faire en sorte que ces produits de proximité soient davantage valorisés dans notre pays.
Dernière question plus générale mais importante. Il faudrait 2 heures pour la développer. C'est l'avenir du travail tel que vous l'imaginez, vous Sébastien. On a parlé du patronat d'un côté, il y a le salarié en face, le salarié est en train d'imploser. On a des formes aujourd'hui précarisées d'emploi, on a des contrats aidés, on a des contrats d'avenir, on a des CDD, on a des contrats d'insertion. Mais est-ce que ça ne risque pas de devenir un piège? Parce que face à ça, vous avez une grande économie, si encore faut-il l'appeler comme ça, par rapport à ce qui serait une petite économie, ce qui est faux, on le sait maintenant avec l'ESS, une grande économie qui va dire, nous on fait du durable, on fait du solide, vous êtes toujours dans le rapiéçage.
Alors, je partage pas votre point de vue, Philippe, sur la question de la fin du salariat, et notamment sur le fait que, et nous nous référons là-dessus à un rapport tout à fait intéressant du Conseil d'orientation pour l'emploi, qui dit qu'en fait, il y a à peu près 10% des emplois en France dans les prochaines années qui vont être détruits en raison de la digitalisation et de l'automatisation de l'économie, donc assez peu de destruction d'emplois, mais par contre, une évolution très importante des métiers, pour faire face à ces nouvelles transitions, qu'elles soient énergétiques, économiques, numériques, etc. Donc pour répondre à cela, il faut 2 choses. Il faut d'abord dire, nous avons besoin de travailler sur qu'est-ce que seront les métiers de demain. On a parlé, et nous soutenons d'ailleurs cette proposition qui a été faite par Emmanuel Macron pendant la campagne et qui sera sans doute, nous l'espérons, repris dans les prochains mois, d'une transformation du CICE en dispositif de baisse des cotisations sociales pérennes pour l'ensemble des entreprises. Et nous avons prouvé, nous, dans l'économie sociale et solidaire, en 10 ans, nous avons créé plus 27% d'emplois dans notre secteur, alors que dans le secteur à but lucratif, c'était 7%. Donc nous prouvons que quand nous sommes accompagnés sur des dispositifs de droit commun, nous créons de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est un message qu'il faut faire passer aussi parce que, en tant qu'employeur, on a des responsabilités. Nous attendons que ces responsabilités soient à la fois des engagements pour nous, mais aussi une manière pour le gouvernement d'entendre que nous sommes des partenaires à part entière dans le cadre de ces nouvelles mutations.
Vous allez retrouver à nos pages d'émission un lien avec le portail de l'emploi de l'économie sociale et solidaire, avec l'UDES, évidemment, l'Union des employeurs de l'ESS, et avec le labo de l'ESS, labo près d'union.ess.org. Merci Sébastien.
Merci Philippe.
Si l'UDES représente un poids lourd de l'économie sociale et solidaire, certaines initiatives prouvent que l'économie des grandes entreprises peut aussi apporter une contribution à une société plus équitable, plus collaborative. Je prends pour exemple l'association 100 000 rencontres solidaires créée en juillet 2013. Ce programme était porté au départ par le Club Horizon, un club d'entrepreneurs et de jeunes cadres dirigeants qui, depuis plusieurs années, incube, comme l'on dit parfois, des projets citoyens solidaires. En quelques mots, 100 000 rencontres solidaires restaurent le lien entre les entreprises et les personnes en recherche d'emploi. Le principe repose sur la bonne volonté de salariés volontaires prêts à rencontrer des chercheurs d'emploi dont le profil peut leur ressembler. Le temps d'une pause déjeuner, les rencontres se déroulent en 3 temps, l'accueil en entreprise, une visite des lieux, l'écoute des témoignages de salariés, un travail en petit groupe sur les problématiques de personnes en quête d'emploi et puis une synthèse sous forme d'échanges individuels, informels. Chaque groupe est composé de 3 personnes en recherche d'emploi et de 4 collaborateurs en poste. Ça peut ressembler à la démarche du Café Contact Emploi dont on parle très régulièrement, qui met face à face un demandeur d'emploi et un entrepreneur, sauf que les rencontres des 100 000 ne sont pas des entretiens de recrutement, mais elles permettent d'échanger des conseils concrets et des contacts. Or, même s'il n'est pas question de crier victoire, le taux de satisfaction des bénéficiaires est certes total et le taux de retour à l'emploi est quand même évalué à plus de 15% à peine 2 mois après une rencontre. Or, le site c'est www.100000rencontres.com.